Guerre et paix. Troisième partie, chapitre 2, scène 11. L'aide de camp en était là de sa nouvelle histoire lorsque Pierre fut appelé chez le gouverneur général. Le comte Rostopchine, les sourcils froncés, se passait la main sur les yeux et sur le front au moment où Pierre entra dans son cabinet.
« Ah, bonjour, guerrier redoutable !»
dit Rostopchine.
« Nous connaissons vos prouesses. Mais il ne s'agit pas de cela pour le quart d'heure. Entre nous, mon cher, êtes-vous maçon ?»
demanda-t-il d'un ton sévère, qui impliquait tout à la fois le reproche et le pardon. Pierre se taisait.
« Je suis bien informé, mon cher, »
reprit le comte.
« Mais je sais qu'il y a maçon et maçon. » Et j'espère que vous n'êtes pas de ceux qui perdent la Russie sous prétexte de sauver l'humanité. Oui, je suis maçon,
répondit Pierre.
Eh bien, mon très cher, vous n'ignorez pas sans doute que messieurs Speransky et Magnitsky ont été envoyés, vous devinez où, avec Kloutcharev et quelques autres, dont le but avoué était l'édification du temple de Salomon et la destruction du temple de la patrie. Vous pensez bien que je n'aurais pas renvoyé le directeur des postes s'il n'avait été un homme dangereux. Je sais que vous lui avez facilité son voyage en lui donnant une voiture et qu'il vous a confié des documents importants. J'ai de l'amitié pour vous, vous êtes plus jeune que moi. Écoutez donc le conseil paternel que je vous donne. Rompez toute relation avec ces gens-là et partez le plus tôt possible. Mais quel est donc le crime de Kloutcharev ?
Demanda Pierre.
C'est mon affaire et non la vôtre,
s'écria Rostopchine.
On l'accuse de répandre les proclamations de Napoléon, mais ce n'est pas prouvé,
poursuivit Pierre sans regarder le comte.
Et Verestchagin, nous y voilà,
dit Rostopchine en l'interrompant avec colère.
Verestchagin est un traître qui recevra son dû. Je ne vous ai pas fait appeler pour juger mes actes, mais pour vous donner le conseil ou l'ordre de vous éloigner comme il vous plaira et de rompre toute relation avec les Kloratchev et compagnie.
Remarquant qu'il s'était un peu trop échauffé en parlant à un homme qui n'avait rien à se reprocher, il lui serra la main et changea subitement de ton.
Nous sommes à la veille d'un désastre public. Et je n'ai pas le temps de dire des gentillesses à tous ceux qui ont affaire à moi, la tête me tourne. Eh bien, mon cher, que ferez-vous ? Rien,
répondit Pierre sans lever les yeux, et il avait un air soucieux.
Un conseil d'ami, mon cher, décampez et au plus tôt, c'est tout ce que je vous dis. À bon entendeur, salut, adieu, mon cher. À propos, est-ce vrai que la comtesse soit tombée entre les pattes des saints-pères de la Société de Jésus ?
Pierre ne répondit rien et quitta la chambre d'un air sombre et irrité. En rentrant chez lui, il y trouva quelques personnes qui l'attendaient. Le secrétaire du comité, le colonel du bataillon, son intendant, son majordome, etc. Tous avaient à lui demander quelque chose. Pierre ne comprenait rien, ne s'intéressait pas à leurs affaires. Il ne répondait aux gens que pour s'en débarrasser au plus vite. Enfin resté seul, il décacheta et lut la lettre de sa femme qu'il venait de trouver sur sa table.
« La simplicité du cœur consiste dans la soumission à la volonté de Dieu. Eux en sont un exemple, »
se dit-il après l'avoir lu.
« Il faut savoir oublier et comprendre tout. Ainsi donc, ma femme se remarie. »
Et, s'approchant de son lit, il se jeta dessus et s'endormit aussitôt, sans même se donner le temps de se déshabiller. À son réveil, on va lui dire qu'un homme de la police était venu s'informer, de la part du comte Rostopchine, s'il était parti, et que plusieurs personnes l'attendaient. Pierre fit à la hâte sa toilette, et, au lieu de passer au salon, prit l'escalier de service et disparut par la porte cochère. Depuis lors, et jusqu'après l'incendie de Moscou, malgré toutes les recherches qu'on put faire, personne ne le revit et ne sut ce qu'il était devenu.